Hello, this is Nicky Cruz, and I'm really looking forward to seeing you for the Paris for Christ conference in May, because this is the only moment in history when I do believe that every born again Christian, every Christian that loves Jesus Christ, we need to unite our force with the forces of heaven to fight this evil all over the world. And this is started from families, countries, cities. We really are right now going through one of the biggest challenges in history for the Church of Christ. May the Lord bless you, and I'm looking forward to seeing you.
Propose ce soir d'ouvrir vos Bibles dans le livre de la Genèse. Nous y retournons au chapitre 2. Écoutez, refaisons la lecture que nous avons fait la semaine dernière. Chapitre 18, verset 18 jusqu'au verset 24. Genèse 2, verset 18 à 24. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait et afin que tout être vivant portât le nom que l'homme lui donnerait. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, puis qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. » Amen. Le titre de ce message ce soir, c'est « Elle contre lui ». Vous pouvez le prendre dans deux sens, hein. Et justement, on va jouer sur ces deux sens. Et tout d'abord, je voudrais rappeler peut-être cette chose que nous avons vue la semaine dernière. La leçon la plus simple, mais peut-être la plus importante à retenir. Le mariage est une histoire d'amour, mais c'est aussi une question d'obéissance et de foi en Dieu. Nous n'avançons pas simplement guidés par nos sentiments ou par des conseils d'hommes, nous avançons par la foi. Et nous croyons que Dieu est celui qui a prévu de grandes choses pour chacun d'entre nous. Mais ça nous demande une obéissance et de la foi. Gloire à Dieu. Deux questions auxquelles je voudrais répondre parce que je les ai entendues la semaine dernière. Elles m'ont été partagées comme cela à la fin de la réunion. Et donc je voudrais m'y arrêter ce soir. Première question, peut-il exister dans le plan de Dieu plusieurs femmes correspondantes à un homme et vice-versa ? Alors, je ne dis pas qu'un homme peut avoir plusieurs femmes. C'est ce que je veux dire. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Vous avez compris. C'est-à-dire, est-ce que on peut trouver plusieurs femmes, un homme pourrait trouver plusieurs femmes dans ce monde qui pourraient vraiment être sa correspondante. Si on s'en tient dans l'esprit de la Genèse et dans le texte biblique, non. Dieu a dit, je lui ferai une aide semblable. Vous allez me dire, il ne faut pas se tromper alors. Hein. Et je crois qu'il n'y a vraiment qu'une aide semblable. Elle me dire, mais si elle est loin, le monde est grand. Je crois que Dieu a tout prévu. Mais je crois véritablement qu'il n'y a qu'une Ève pour chaque Adam. et qu'un Adam pour chaque Ève. Et faites confiance à Dieu, il vous permettra de la trouver ou de le trouver. Que faire si l'on est marié avec quelqu'un qui n'est pas notre être semblable, que Dieu a fait? Peut-être parce que c'est un mariage avant la conversion, ou bon, toute circonstance, vous savez, qui peut amener des fois à se dire « mais mon mariage est difficile, mon conjoint, ma conjointe n'est pas avec le Seigneur et ça pose beaucoup de difficultés ». Que dire? Premièrement, même si un mariage n'est pas la parfaite expression de sa volonté, autrement dit, vous vous dites, je ne suis pas marié avec celui ou celle qui est vraiment ma correspondante, mon correspondant, Dieu n'est jamais pour le divorce. C'est-à-dire que même si quelqu'un est marié avec une personne qui n'est pas sa correspondante en Dieu, le mariage est scellé devant Dieu. Même si ce n'est pas fait dans l'église, même si c'est fait devant la mairie, ou si c'est fait d'une autre manière. Et ce mariage a autant de valeur pour Dieu que s'il est fait entre deux personnes qu'il a amenées l'un vers l'autre. Maintenant, je sais qu'il y a des frères et des sœurs, et peut-être particulièrement des sœurs, qui sont dans une véritable souffrance, parce que le mari n'est pas converti, etc., etc., et d'autres situations. Et donc, il est très difficile de trouver une correspondance dans les os et dans la chair. Hein. Et on se dit qu'au contraire, le fossé est grand. Maintenant, je pense que... Et attention, c'est même parfois vrai, et malheureusement, nous en sommes que trop témoins par moments, dans des couples chrétiens. Il y a des couples chrétiens qui ne sont pas forcément le correspondant l'un de l'autre que Dieu a voulu. Et ça, c'est une douleur aussi. Mais je pense que Dieu est capable de créer des liens qui permettront aux os et à la chair de se correspondre. Il est capable de faire la jointure, en quelque sorte. Et maintenant, ça demande de la prière, de la foi, de la patience, de l'humilité, et c'est clair, ça passe aussi par beaucoup de souffrances. Parce que tout ce qui est orthopédique, ça fait souffrir. Hein. Et quand Dieu doit faire la chirurgie orthopédique pour rapporter les os de l'un vers l'autre pour qu'il y ait cette correspondance, ça fait beaucoup de souffrance. Et donc l'adaptation ne sera pas du tout évidente. Elle ne se fait pas comme ça en quelques temps. Ça peut prendre beaucoup de temps. Et bien sûr, ça reste fragile aussi. Hein. Ça reste fragile. Mais Dieu est capable de cela. Mais ça demande beaucoup de prières. Et pour la personne chrétienne, à l'égard peut-être de son compagnon qui n'est pas chrétien, on sait que Paul nous dit que s'il ne veut pas se séparer, il ne faut pas se séparer. Hein. Mais il dit aussi que l'épouse qui est mariée à un inconverti sanctifie aussi. C'est-à-dire qu'elle apporte quelque chose de positif, hein, elle apporte l'esprit du Seigneur dans son couple et elle doit être aussi un modèle, un encouragement pour son époux. Gloire à Dieu. Deux questions auxquelles je voulais rapidement répondre, mais c'est vrai que c'est un... Vous savez, ce genre de questions, on ne peut pas répondre à l'emporte-pièce. Hein. Les vies sont précieuses devant Dieu. Elles sont fragiles. Et heureusement que le Seigneur ne répond jamais par la loi, mais toujours par la grâce. La loi est un bâton, la grâce est un manteau qui sait épouser les formes et qui sait s'adapter aux formes, parce qu'il y a aucun couple qui est identique à un autre. Et si vous allez vers tous les couples avec le même bâton, certes, vous pensez régler les choses, mais vous avez détruit beaucoup. Et il faut savoir adopter le manteau de la grâce. Et le manteau de la grâce, lui, sait épouser les différentes formes qu'il a en face de lui. Que Dieu nous donne sa sagesse. Revenons ce soir à notre texte. Et donc, quelques points que nous avons vus la semaine dernière, parmi les points principaux. Nous avons vu que les principes du mariage selon Jésus sont au-dessus des coutumes, vous vous en rappelez, ou même des prescriptions de la loi, car Jésus place ces principes du mariage dans le cadre de la création. Il dit « Le Créateur au commencement, lorsque les pharisiens sont venus lui poser des questions au sujet de la répudiation. Ce qui veut dire que les principes de la création et auxquels Jésus fait référence sont intemporels et universels. Les principes, du mariage sont intemporels et universels parce qu'ils ne sont pas liés à un cadre historique, ils sont liés à la création. Et c'est à cause de cela que pour comprendre les sources du mariage, nous nous sommes tournés vers le livre de la Genèse. Dans le texte que nous venons de lire en partie, il aurait fallu commencer plus tôt dans le chapitre 2, nous avons un récit de la création où l'éternel Dieu forma l'Adam, l'homme de la terre. L'éternel planta pour lui un jardin, l'Éden, dans lequel il le plaça en charge de le cultiver et de le garder. C'était sa mission. Bien sûr, vous savez qu'il y avait aussi l'arbre du bien, de la connaissance du bien et du mal. C'est un environnement extraordinaire qui devait lui procurer un réel bonheur. Pourtant, Dieu en perçut ou même anticipa une certaine solitude qui pouvait peut-être amener des risques chez l'Adam. Alors Dieu entreprit, c'est Dieu qui a entrepris. Ce n'est pas une demande de l'homme, c'est une anticipation de Dieu. Il entreprit de lui faire une aide semblable. Il forma des animaux, mais l'homme ne se retrouva en aucun d'eux, parce qu'aucun des animaux, qu'il soit du bétail ou de tout ce que vous voulez, aucun n'était semblable à lui. Et du coup, l'homme a réalisé sa propre solitude, puisqu'au verset 20, il reprend l'expression du Seigneur, « Il ne trouva point d'aide semblable à lui. » Et je vous ai dit la dernière fois que pour être prêt pour le mariage, un homme a besoin de prendre conscience de sa solitude. Une solitude qui ne peut être comblée que par une aide semblable à lui. Car rien d'autre dans ce monde ne peut véritablement satisfaire son cœur. Il faut que l'homme ait connu cette solitude. Qu'est-ce que fit Dieu ? Il le sectionna. Autrement dit, je vais le dire comme ça, il le sexualisa, dans le sens où il tira de l'homme la femme, à travers une côte, j'y reviens tout à l'heure. Et ensuite, il l'amena, cette femme, vers l'homme. Et lorsqu'il l'a vue, il se reconnut tout de suite en elle. Et il l'a reconnue tout de suite, c'était elle. Elle est de la même nature que lui. Après tout, n'avait-elle pas été tirée de lui par une opération chirurgicale ? Elle venait de lui, de son côté. Oui, c'est maintenant que je veux le dire. De son côté, et pas simplement d'une côte. On a traduit la côte. Mais le mot hébreu est beaucoup plus profond que ça, il parle vraiment du côté. Qu'est-ce qu'il y a sous la côte ? La côte, sous la côte, protégée par la côte, il y a le cœur. Et c'est vraiment du côté de l'homme, de ce côté que Dieu a comme arraché quelque chose de lui, a pris quelque chose de lui, cette féminité qui était en lui. Quand il fut créé ainsi, et cette féminité, Dieu l'a formée pour en faire une femme. Peut-on dire alors que la femme est comme un membre fantôme de l'homme ? Elle est comme une part qui lui manque, jusqu'à la souffrance. Mesdemoiselles, un moyen de savoir si celui qui vous fait la cour est bien votre homme ? Souffre-t-il de vous voir loin de lui, comme une part absente de lui-même ? Faites-lui ressentir cette souffrance. Oui. Il a besoin de connaître cette solitude. Non seulement de connaître cette solitude, de connaître cette souffrance. Parce qu'il faut qu'il comprenne que sans vous, il ne pourra pas être satisfait pleinement dans son cœur. Alors Dieu l'a donc différenciée d'Adam. Elle était de la même nature que lui, mais elle était différente. Elle était femme. Et quand il l'a vue comme femme, il réalisa pour la première fois qu'il était homme. C'est en la voyant qu'il réalisa qu'il était un homme. Et il eut confiance en Dieu, je le disais, en Dieu qui lui présenta la femme. Et il obéit au Seigneur. L'homme et la femme étaient donc de la même nature, et ils étaient aussi différents. Ils n'étaient pas une copie identique l'un de l'autre. Ils se correspondaient pour former une unité qui leur permettait de dépasser la solitude de l'Adam. Ils étaient des vis-à-vis, j'y reviens tout à l'heure. Et cette correspondance parfaite est l'accomplissement de la parole de Dieu qui avait dit « Je lui ferai une aide semblable à lui ». Et ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est examiner cette parole en détail, je lui ferai une aide semblable à lui, et nous laisser porter par elle pour réfléchir à cette question. Donc, qu'est-ce qu'une aide semblable, selon Dieu? Et qu'est-ce que cela nous dit de fondamental concernant la relation homme-femme dans le mariage? Parce que tout est dans cette expression. Nous avons parlé de Genèse 2, regardons un instant Genèse 1, versets 26 à 28. Dieu dit que cela était bon, puis Dieu dit, faisons l'homme, faisons Adam à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et Dieu créa l'Adam, l'homme, à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. En Genèse 1, 27, il est question de la création de l'humanité par Elohim. Et c'est l'aboutissement de son œuvre. Cette humanité s'appelle l'Adam, l'Adam, l'Adam. Et cette humanité est tout d'abord considérée dans son sens générique. Il créa l'homme, sans différenciation de sexe. Et il dit que cette humanité, l'homme, est porteuse de son image. Toute l'humanité est porteuse de son image. Dieu établit donc dès le début une unité, hein, l'homme, et une égalité fondamentale du genre humain. On peut parler d'une égalité organique entre tous ceux du genre humain, au-delà des races et des deux sexes. Nous sommes tous du genre humain. Et nous portons tous cette marque de Dieu sur nos vies. Peu importe la couleur de nos peaux, peu importe notre origine géographique, sociale, religieuse et notre genre, homme ou femme. Puis, il est précisé qu'ils sont créés un en deux. Il le créa à l'image de Dieu, il créa exactement le mâle et la femelle. C'est ainsi que c'est écrit. Non, il est écrit « Dieu les créa, mâle et femelle ». Le texte hébreu dit ceci, « Il les créa, mâle et femelle ». Et mâle et femelle, ensemble, forment le genre humain, ils forment l'Adam. Aucune différenciation, c'est très important, aucune différenciation spirituelle, morale, n'est alors faite entre le mâle et la femelle. Regardez, Dieu fait-il une différence entre l'un ou l'autre? Il ne fait aucune différence entre l'un ou l'homme, l'un et l'autre. Seule une différenciation sexuelle est établie dès l'origine. L'un est mâle, l'autre est femelle. Mais cette différenciation n'entraîne aucune primauté de l'un sur l'autre, aucune supériorité de l'un sur l'autre. Ils nous sont présentés comme créés ensemble, créés l'un et l'autre, l'un avec l'autre. Et ils sont créés dès le début, homme, mâle et femelle. Contrairement aux théories du genre, la différenciation sexuelle n'est donc pas le fait de la société, mais un fait de la création. un fait propre à chaque être humain, un fait organique. Donc, il y a une unité et une égalité fondamentale entre l'homme et la femme, le mâle et la femelle. Mais ça ne s'arrête pas là. Et j'ai vraiment été interpellé par Genèse 1, 28. Dieu les bénit. OK ? Et il leur dit, soyez féconds, multipliez. Et quand il dit cela, il ne le dit pas au mâle. Il le dit à tous les deux. C'est le mâle et la femelle, drôle de façon de parler, hein, mais bon, qui sont concernés par la mission que Dieu adresse au genre humain, d'une manière indifférenciée. Dieu, là, ne dit pas l'un fait ceci, l'autre fait cela. En fait, pour tout faire, ils ont besoin de l'un et de l'autre. Alors d'abord, la bénédiction et l'autorité divine sont données aux deux en même temps. Ça paraît peut-être philosophique ce que je dis, mais après c'est très pratique, parce qu'on est vraiment dans les principes essentiels du fonctionnement du couple. Là. Ils sont bénis en même temps, sans différenciation sexuelle. Dieu n'a pas béni plus le mâle que la femelle, sans primauté de l'un sur l'autre. Dieu n'a pas mis le mâle avant la femelle. Nous ne pouvons qu'en déduire une co-responsabilité dans l'accomplissement de la mission. Ils sont tous les deux responsables de l'accomplissement de la mission, ce qui n'exclut pas une spécification dans la mission comme dans la nature. Dans la nature, ils sont mâles et femelles, et dans leur mission, ils ont aussi une spécification. Cette spécification s'accomplit, bien sûr, dans la première mission qu'Élohim leur confie. Quelle est la première mission que Dieu leur confie ? Porter du fruit. C'est toujours la même histoire, hein, même la même histoire que le salut. De toute façon, ici, toute l'histoire du salut est écrite dans ces versets. On le verra la semaine prochaine. Mais soyez féconds. La fécondité nous permet de comprendre cette notion de co-responsabilité. Alors oui, depuis la chute, le péché a perverti l'acte sexuel, mettant souvent la femme en situation de soumission, devant subir la sexualité de son époux. Mais dans la pensée créatrice, il n'y a ni soumission, ni supériorité, mais co-responsabilité, avec une spécification. L'homme est celui qui transmet. Il a la mémoire des choses. C'est ce que veut dire mal, la mémoire. Il transmet, il est la source. Tandis que la femme, femelle en hébreu, l'hébreu, si vous lisez la version Chouraki, vous verrez que c'est très imagé. Alors, soyez pas surpris par la manière dont je vais le dire. La femme, c'est la femelle, c'est le trou. D'accord ? Parce qu'elle est le réceptacle. Et c'est elle qui garde ce que le mari sème en elle. Mais évidemment, dans l'acte de fécondité, ils sont dépendants l'un de l'autre dans l'accomplissement du processus. Dans la pensée de la création dans ce texte, on ne peut pas dire que l'homme est supérieur dans l'acte de fécondation par rapport à la femme. C'est stupide de penser les choses comme ça. C'est l'homme, c'est le péché qui pervertit cette notion-là. Mais il y a besoin des deux au même niveau. Il faut l'homme pour donner la semence, mais il faut la femme pour recevoir la semence. Sans la semence, la femme ne peut rien produire. Mais s'il n'y a pas la femme pour recevoir la semence est perdue. Il faut donc les deux. Et nous comprenons que seuls, ils ne peuvent rien accomplir. Quand on en revient à ce que c'est tel que on est dans les premiers jours. Le péché n'est pas là. Et il faut quelque part, je dirais tout à l'heure, arriver à extraire de nous des milliers d'années de culture marquées par le péché. Mais quand on revient au principe de Dieu, on voit quelque chose de beau, de magnifique, de pur. C'est la vie elle-même qui est là. Et finalement, si je vous dis ça, c'est pourquoi ? C'est parce qu'il nous faut ramener ces choses dans notre couple. Et Dieu dit finalement que tout ce qu'il avait fait était très bon. Et Dieu approuvait toute la création qu'il venait d'achever et l'ordre qu'il venait d'établir en bénissant le genre humain, mâle et femelle, et en lui confiant une mission de gestion de la création. Pour résumer, la volonté d'Élohim était donc de les créer ensemble, mais différenciés sexuellement et donc complets l'un avec l'autre. Il n'y a ni priorité ni supériorité, mais il y a égalité organique entre les deux sexes. Ce qu'un l'est, l'autre l'est aussi au même niveau dans leur nature. Et il y a co-responsabilité avec une spécificité des deux sexes dans la réalisation de la mission que Dieu leur confie. Malheureusement, le péché a tout corrompu. Et c'est ce que Dieu annonça dans Genèse chapitre 3, vous retrouverez le verset, excusez-moi, c'est aux alentours du verset 16, Genèse 3, verset 16, le péché a tout corrompu et Dieu l'a dit, le mâle, quel est le verbe ? Dominera sur la femelle. Et c'est ce qui se passe depuis tant et tant d'années que les hommes sont sur la terre. Dominer, ce verbe hébreu veut dire gouverner, diriger, prendre l'autorité. Et malheureusement, dans trop de cultures, la femme a été abaissée, parfois jusqu'à perdre toute identité publique. Voire même, vous le savez, toute valeur morale ou même spirituelle, la femme a-t-elle une âme ? Je me dis que, alors, c'est juste un aparté, parce que je n'ai pas le temps de rentrer dans l'étude des lettres de Paul. Mais quand Paul dit que l'homme, l'époux, le chef de l'épouse, l'homme est le chef de la femme, attention, ça ne peut pas être un chef à la manière de Genèse 3.16. Ça ne peut pas être un chef avec le verbe dominer. Parce que si on reprend le verbe dominer, alors on est encore sous la malédiction. Mais quand l'homme est le chef ou la tête ou la source, c'est le même, on peut traduire les trois sources, ce qui nous ramène déjà à la création. On est dans une autre dimension. On est dans l'esprit de la Genèse avant la chute. Ce que nous croyons, c'est que Jésus est venu pour restaurer les choses selon la volonté parfaite de Dieu. Et pour cela, il est nécessaire de procéder à des corrections très profondes. Des corrections sur la culture. Des corrections même vis-à-vis à la religion. Parce que le mieux, c'est de revenir au principe de la création. Je le disais la dernière fois, la création est libératrice. La création nous libère des traditions et des codes religieux. Alors venons-en maintenant à une aide semblable. C'est dans Genèse 2 que le Seigneur donne cette parole, « Je lui ferai une aide semblable à lui-même ». Adam était tout heureux lorsqu'il vit Isha que Dieu avait formée de son côté. Il se reconnut tout de suite en elle, c'était elle était semblable à lui. Et dès le début donc, l'homme a affirmé dans Genèse 2 aussi son égalité de nature avec la femme. Elle est ma chair, elle est mes os, elle est moi-même, nous sommes semblables, une égalité. Encore une fois, beaucoup de cultures et de religions, y compris le judaïsme, y compris le christianisme moyenâgeux, ont complètement perdu de vue. Mais la femme est semblable à l'homme dans sa nature. Semblable, mais pas identique. Nous l'avons dit la semaine dernière, ils sont correspondants. Il est Ish, elle est Isha, il est l'homme, elle est la femme. Ish, ça veut dire aussi l'époux. Isha, ça veut dire l'épouse. Et en hébreu, cette idée de correspondance est exprimée par le mot, je vous le donne en hébreu, kenegedo. Ce mot est tellement révolutionnaire que j'ai découvert que, pour ceux qui ont l'habitude d'étudier la Bible, vous connaissez peut-être ce qu'on appelle les numéros Strong. Strong était un docteur de la loi qui avait mis un nombre devant tous les mots de la Bible pour leur donner une définition, que ce soit en hébreu ou en grec. Eh bien, ce mot Kenegedo est tellement révolutionnaire que Strong l'a oublié. Vous allez sur les versions de la Bible, il n'est pas commenté. Il n'est pas commenté. J'ai vraiment trouvé ça très intéressant de noter que bon, M. Strong, qui vivait il y a quelques dizaines d'années en arrière, n'avait pas perçu ça. Kenegedo, on le retrouve aussi au verset 20, 18 et 20, traduit par semblable, et on le retrouve nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs dans la Bible. Littéralement, en hébreu, il veut dire opposé ou en face de lui. C'est pour ça que je préfère vis-à-vis à semblable. Et je crois que ça correspond plus à l'esprit du texte. Vis-à-vis, opposé, parce que quand même différent. Parce que semblable, quelque part, peut... Je veux dire, dans le contexte culturel dans lequel on est aujourd'hui, certains pourraient penser qu'une aide semblable à soi-même peut être quelqu'un qui me correspond tout à fait jusque dans mon genre sexuel. Mais justement, ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit, Kenegedo, quelle est la personne que Dieu amène vers moi ou vers qui m'amène, est en face, opposée à moi. Vous comprenez? Elle est mon vis-à-vis. Un rabbin a écrit ceci, c'est de là que j'ai tiré le titre de ce message. Si l'homme aime sa femme, elle sera contre lui. Si un homme n'aime pas sa femme, elle sera contre lui. C'est joli, hein? La semaine dernière, j'ai illustré ce principe de Kenegedo par les deux mains. Identiques, hein, semblables. Non, identiques, non, pas tout à fait identiques. Elles sont en opposition. Elles sont en vis-à-vis. Elles peuvent être contre.
Elles peuvent être contre.
Mais lorsqu'elles sont unies, elles accomplissent des choses extraordinaires. Ça, c'est le couple. Ish et Isha étaient donc Kenegedo, et cette opposition était nécessaire. Opposition l'un vis-à-vis de l'autre, semblables et égaux dans leur nature, tout en étant en correspondance. Et cette opposition, mâle-femelle, permet l'unité. Elle permet l'unité. Maintenant, l'autre expression, une aide. Dieu ne voulait pas simplement donner une personne Kenegedo, un vis-à-vis à l'homme. Il lui a dit, cette personne que je vais mettre en vis-à-vis de toi, ça sera aussi ton aide, en hébreu, Ezer. Ezer Kenegedo, c'est l'expression. Ezer veut dire aide, secours. Ben Ezer. Comme il est écrit dans le livre de Samuel, le Seigneur nous a secourus jusque-là. Ezer. Mais une aide de quelle nature? Parce qu'il y a différents types d'aide. Bon, il y a celui qui me donne un coup de main, hein. Un assistant, un subalterne. Si Dieu avait voulu dire un subalterne, un assistant, il aurait utilisé pour cela le mot hasard, qui est très proche des airs. Mais hasard parle, en gros, voilà, du subalterne, du subordonné. Et si Dieu n'a pas choisi hasard mais Ezer, c'est qu'il avait quelque chose de plus important, de plus significatif à communiquer. Si Dieu avait voulu dire servante, il aurait utilisé le mot ébède, ou un de ses dérivés utilisé plus de 1000 fois dans l'Ancien Testament, mais Dieu n'a pas choisi ébède, servante. C'est donc qu'il avait quelque chose de plus significatif à nous communiquer. Dieu aurait pu utiliser un mot qui veut dire assistant privilégié, assistant de choix, charat. Josué était le charat de Moïse. Élisée était le charat d'Élie. Il versait l'eau sur ses mains, il y avait cette intimité, cette proximité. Et pourtant Dieu n'a pas choisi le mot charat, mais le mot ézer. C'est donc qu'il avait quelque chose de plus significatif encore à nous enseigner. Alors que veut dire Ezer? Il fait référence à une aide, un secours tout à fait particulier. Sur 21 récurrences dans l'Ancien Testament, 15 fois Ézer concerne l'aide que Dieu apporte à Israël. Psaume 124, verset 8. « Notre secours, Ézer, est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Psaume 146, verset 5. « Heureux celui qui a pour secours Ézer, le Dieu de Jacob, celui qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. » David dit au psaume 10, « Il est le secours, l'Ézer des orphelins. » Et David dit lui-même au psaume 70 qu'il est son secours. « Il est mon Ézer et mon libérateur. » Quel type d'Ézer est donc Dieu ? Dieu est-il un assistant ? Dieu est-il un subalterne ? Dieu est-il un assistant de choix ? Ah, quand le secours nous vient de l'Éternel, il nous vient d'en haut. Et voilà que Dieu n'a pas voulu donner un petit coup de main à l'homme. Il m'a dit, je vais te donner un Ézer. C'est le secours qui vient de l'Éternel. Et le secours qui vient de l'Éternel vers l'homme, c'est la femme. Elle n'est pas la servante. Elle n'est pas la boniche. Elle est l'Ézer de Dieu. De plus, des rabbins estiment qu'Ézer a une double racine. Il veut dire assistance, mais aussi force. Force. Ève était donc l'Ézer d'Adam, vers qui Dieu l'amena. Non pas une assistance, non pas une assistante, non pas un coup de main, mais un véritable leadership en correspondance avec lui pour accomplir la mission que Dieu leur confiait. Je finis ce message par un dernier point que j'ai appelé « Retrouver l'équilibre créationnel ». Je vais peut-être la bousculer certains, d'autres pourront contester ce que je dis, ce n'est qu'une opinion personnelle, vous n'avez pas le droit d'être d'accord avec moi, il n'y a pas de problème. Les églises protestantes et évangéliques, notamment les Quakers, ont été historiquement en pointe dans le combat de l'abolition de l'esclavage, n'est-ce pas ? Affirmant ainsi, selon Genèse 1, 27, que nous sommes tous des fils d'Adam, peu importe la couleur de notre peau, que nous avons tous la même valeur, blanc, noir, métissé ou de toutes les ethnies de la terre, nous sommes dans tous le même Créateur, le même Père. Et c'est encore plus vrai lorsque nous professons être fils de Dieu en Jésus-Christ. Et Paul écrit Galates 3, 28, il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus d'esclaves, d'hommes libres. Il rajoute même, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Alors l'Église, dans le premier siècle, a dû faire face au conflit ni juif ni grec. Vous savez que dans les Églises, ça a beaucoup remué. Et puis, entre le 16e siècle et le 19e siècle, ça a été la lutte, ça a pris beaucoup plus de temps pour l'abolition de l'esclavage. Mais l'Église a été en pointe. Par contre, l'Église n'a pas été en pointe dans le dernier couple binôme mentionné ici. Il n'y a plus ni homme ni femme. Les Églises n'ont pas su toujours, parce que prises dans beaucoup de traditions, elles n'ont pas su accompagner le mouvement d'évolution de la condition féminine. Nous avons abandonné alors ce terrain à des mouvements extrémistes, politiques et philosophiques qui ont abouti à une perversion de la relation de la femme vis-à-vis de l'homme, à une confusion des genres, avec beaucoup de souffrance. Parce que la conséquence de tout ça, c'est la montée en flèche du divorce. Mais c'est aussi malheureusement l'avortement. Parce que l'Église n'a pas su donner à la femme la place que Dieu avait préparée pour elle de toute éternité. Quelque part, Je vais vous choquer, je m'en fiche. Mais je comprends les mouvements qui ont milité en faveur de la condition féminine, parce que c'est inscrit dans le gène de la femme que de retrouver sa position vis-à-vis de l'homme. Et parce que je crois qu'à la fin des temps, Dieu nous ramène vers ce qui était au début. Vous savez aussi pourquoi ? Je le redirai à la fin, mais surtout la semaine prochaine. Parce que Dieu nous prépare à être l'épouse de Jésus-Christ. Et si nous ne comprenons pas ce qu'est une épouse, moi je vais vous dire, un mari qui n'est pas à la hauteur de son épouse, il n'est pas à la hauteur de Jésus-Christ. Et Dieu nous prépare pour ça. Et il faut que nos couples soient à l'image de celui de Jésus-Christ et de l'Église. Pourtant, la Bible, dès la création, a des choses merveilleuses à dire concernant la relation homme-femme dans le couple, particulièrement dans un couple qui entre en alliance avec Dieu, comme dans Genèse 2, nous y viendrons la semaine prochaine, en nous arrêtant sur le verset 24. Vous verrez, dans le verset 24, il y a toute l'histoire de Jésus-Christ et de l'Église. Toute l'histoire de Jésus-Christ et de l'Église est là, parce que le premier des couples, c'est celui de l'Église et de Jésus. D'ailleurs, la femme a été créée parce que Dieu voulait créer l'Église pour Jésus. Parce que le premier Adam, faisons Adam à notre image, Genèse 1, 26, c'est déjà l'annonce de Jésus. C'est déjà l'annonce du Messie. Mais il a fallu des siècles donc aux Églises pour reconnaître l'égalité organique, morale et spirituelle, oui, de la femme vis-à-vis de l'homme. Il a fallu des siècles pour reconnaître que la femme pouvait être sauvée. Oui, il faut dire qu'à ce niveau, ni l'héritage juif, ni l'héritage gréco-romain n'ont aidé l'Église. Dans ces cultures, la femme était bien peu de choses. Dans le monde grec, il est dit que la femme était pratiquement vendue comme une esclave à son mari. Elle était considérée comme une propriété. Ça, dans les écrits de ces gens que notre génération élève, Platon, Aristote, et les uns et les autres, eux ont écrit des choses comme ça. Bon, maintenant, excusez-moi, je vais être aussi direct, mais c'est pas mieux dans la culture juive. Tous les matins, la prière du matin, béni sois-tu de m'avoir pas fait naître païen, ni esclave, ni femme. C'est pas la Bible, c'est pas la Bible, c'est la religion juive. Il y a une grande différence entre les traditions juives et la parole de Dieu. Heureusement, les choses ont évolué grâce à l'Évangile. C'est l'Évangile qui a fait bouger les choses. Et nul aujourd'hui, enfin j'espère, ne remettrait en cause l'égalité organique, morale et spirituelle de l'homme et de la femme. Y a-t-il quelqu'un qui pense que la femme n'a pas d'âme et d'esprit au milieu de nous ? Non, j'espère pas, quand même. Mais au niveau du mariage, cela doit se traduire par l'amour et le respect réciproque. Celle qui est mon épouse est de la même nature que moi en Jésus-Christ. Elle porte l'image de Christ et vice-versa. Au niveau de la nature, nous devons affirmer et vivre selon des principes de parfaite égalité. En Jésus, il n'y a plus ni homme ni femme. Mais maintenant, qu'en est-il au niveau des fonctions ? Je vous rassure, j'ai fini. Des attributions de chacun dans la prise de décision. Comment devons-nous vivre notre couple dans beaucoup de sociétés traditionnelles ? Oui, comme le Seigneur l'avait dit, les femmes sont reléguées à des tâches ingrates ou subalternes. C'est vrai dans la société que dans le couple lui-même. Et l'homme domine. Il domine la femme et c'est une des conséquences du péché. Est-ce que cela doit se retrouver dans le couple chrétien ? En tout cas, ce n'est pas ce qu'enseigne la création. Ce n'est pas ce qu'enseigne la création. Il n'y a aucune raison pour dire que dans l'un ou l'autre des textes de la Genèse, la femme serait inférieure, subalterne en matière d'action, de prise de décision à l'homme. Les deux textes de la création affirment une co-responsabilité différenciée et spécifiée. Dans Genèse 1, 28, ils ont été bénis ensemble. Dans Genèse 2, 18 et 20, ils sont Ezer, Kenedego. Gloire à Dieu. Certes, c'était l'Éden. Le paradis perdu. Mais depuis que nous sommes en Jésus-Christ, « Ne vivons-nous déjà pas les prémices du paradis, du royaume de Dieu? Nous devons, nous, pas donner notre attention à restaurer les relations au sein du couple comme le Créateur les avait établies. Il faut nous décontaminer de la culture, il nous faut nous décontaminer des codes religieux, d'autant plus que nous avons un modèle parfait. Le modèle du couple suprême, Jésus et l'Église. Alors la semaine prochaine, Dieu voulant, nous verrons quelle base le Seigneur posa pour un fonctionnement durable du couple dans Genèse 1:24 et nous verrons comment ces bases nous racontent l'amour de Jésus pour son Église. Mes frères, Dieu vous a donné une Ezer Kenegedo pour que vous puissiez accomplir votre mission. Ma sœur, tu as une grande valeur dans le projet de Dieu. Alléluia. Seigneur, je veux te remercier pour la beauté de ton projet. Oh, que l'homme est tombé bien bas, que les cultures sont tombées bien basses, que les religions sont tombées bien basses pour, Seigneur, écraser celle que tu avais faite pour être une correspondante de l'homme. Seigneur, nous voulons vivre dans nos couples chrétiens. Nous voulons vivre cette unité, cette harmonie, cette co-responsabilité. Jésus lui-même n'a-t-il pas dit qu'il n'a pas honte d'être appelé notre frère ? N'est-il pas écrit que nous sommes co-héritiers, nous sommes mis au même rang que Jésus, ton Fils ? Et nous voudrions mettre des différences dans le couple ? Seigneur, mon Dieu, je veux valoriser l'épouse que tu m'as donnée, parce qu'elle est ma force, elle est mon assistante, parce qu'elle est le don que tu m'as donné. Seigneur, je veux la bénir, et je veux, Seigneur, prendre soin d'elle. Je veux, Seigneur, être un époux comme toi, tu l'es. Dans le nom de Jésus, nous te prions, Père, bénis nos couples. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée.